1. Le commentaire libre type de commentaire, l'acte final d'Helsinki. Déclaration sur les principes régissant les relations mutuelles des États participants, égalité souveraine, respect des droits inhérents à la souveraineté, non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, inviolabilité des frontières. Les États participants tiennent mutuellement pour inviolables toutes leurs frontières, ainsi que celles de tous les États d'Europe, et s'abstiennent donc maintenant et à l'avenir de tout attentat contre ces frontières. Intégrité territoriale des États, règlement pacifique des différends, non-intervention dans les affaires intérieures, respect de droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de penser, de conscience, de religion ou de conviction. Dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les États participants agissent conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Égalité des droits des peuples et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tous les peuples ont toujours le droit en toute liberté de déterminer, lorsqu'ils le désirent, comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe sans ingérence extérieure et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et culturel. Coopération entre les États. Ils s'efforcent, en développant leur coopération sur un pied d'égalité, de faire progresser la compréhension et la confiance mutuelle. Le commentaire dirige les morts de Budapest ont détourné l'attention du public. Il ne sera pas possible malgré tout de dissimuler longtemps à l'opinion l'étendue de l'échec subi en Égypte. Rarement une politique a conduit à une faillite aussi rapide, aussi complète, aussi évidente. Au Moyen-Orient, l'influence française est ébranlée dans ses frontières mêmes. Pour ceux qui croient aux valeurs morales, le visage de la France, des droits de l'homme, révolution de 89, est déformé par le recours aux méthodes des dictatures. Pour ceux qui révèrent la force, notre recul devant l'ultimatum soviétique nous fait perdre la face. Le camp oriental sort renforcé de l'aventure. L'occidental en sort très affaibli. Les États-Unis n'ont pas été capables de se faire obéir par leurs alliés. Ceux-ci n'ont pas été capables d'obtenir le soutien américain. On n'oubliera pas en France et en Angleterre l'empressement mis par Washington à faire condamner Londres et Paris. On n'oubliera pas à Washington l'indiscipline de Londres et de Paris. Le Monde, 20 novembre 1956. Question : donnez un titre au texte. 4 points. Quel est le contexte historique ? 4 points. Quels événements évoque le journaliste ? 4 points. Expliquez le passage souligné dans le texte. 6 points. 2 points pour l'introduction et la conclusion. Sujet 1. Depuis 1989, la fin de l'antagonisme Est-Ouest a redonné vigueur aux organismes politiques onusiens. De nombreuses opérations de maintien de la paix, Salvador, Cambodge, Angola, ont été mises en place avec un succès variable. Toutefois, l'organisation est aujourd'hui l'objet d'un clivage d'une autre nature. Le statut privilégie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité, est de plus en plus remis en question par les payeurs, Allemagne et Japon, et par des géants démographiques, Inde, Brésil, Indochine. Un clivage nord-sud s'installe qui sépare les Occidentaux, parmi lesquels les États-Unis disposent d'une prépondérance sans contrepoids, des pays du Sud de plus en plus inquiets pour le respect de leur souveraineté. Deux conceptions de la sécurité collective s'affrontent, celle des États-Unis qui justifie par le biais de l'ONU de la défense de leurs intérêts vitaux, au besoin par des interventions musclées, celle des pays du Sud qui récuste l'établissement d'un ordre fondé sur une souveraineté à deux vitesses. Au moment où l'ONU est pour la première fois à même de remplir son mandat, elle voit se dresser devant elle de nouvelles menaces et, à terme, de nouvelles perspectives d'éclatement. Sujet 2. Pendant et après le deuxième conflit mondial, l'anticolonialisme passa pour être une des idées forces de la politique des États-Unis. Réflexe généreux d'un peuple qui se souvenait d'avoir brisé sa servitude coloniale et était épris de liberté, pensaient d'aucuns. calcul d'affairiste à la recherche de matières premières et de déboucher sans préjudice du désir secret d'affaiblir des nations concurrentes européennes, disaient les autres, la préoccupation de la diplomatie américaine fut de ne pas faire un choix définitif entre ces deux termes antithétiques, soutien des positions coloniales ou soutien des mouvements d'émancipation. Les États-Unis cherchèrent à jouer un rôle de conciliateur dans les conflits provoqués par le problème de l'émancipation des peuples coloniaux, moins dans la perspective des solutions plus ou moins favorables à apporter que dans le but d'éviter des troubles derrière lesquels ils croyaient toujours voir se profiter l'ombre du communisme. De fait, cette politique à double visage n'a pas été vue sans suspicion par les Occidentaux, aussi bien par les peuples coloniaux. Sujet 3, à Bandung, l'afro-asiatisme était entré dans l'histoire. Prise de conscience et apparition sur la scène internationale de peuples naguère dépendants, désireux à la fois de se mieux connaître et d'affirmer leur dignité comme leur existence aux yeux des grandes puissances d'hier et d'aujourd'hui, telle avait assurément été la signification première de cette réunion. 1,5 milliard d'individus ne disposant que de la force des débats de leurs mandataires, rassemblés dans une conférence internationale à l'appel des premières libérées d'entre eux avant Bandung, beaucoup avaient combattu seuls, pour se libérer d'abord, puis pour survivre. Il est clair qu'aujourd'hui que ces peuples, jusqu'alors négligés, ne sont plus isolés. Ils sentent qu'ils sont une force neuve dans le monde. Parmi les composantes de cette force que recouvrent les expressions assez vagues d'esprit de Bandung ou encore d'afro-asiatisme, on trouve d'abord la résistance sociale à la domination occidentale. On trouve ensuite la peur de guerre, peur qui se traduit par la volonté de ne s'engager avec aucun des deux blocs de puissance et aboutit au neutralisme. On trouve enfin la recherche, naturelle chez des peuples pauvres, de la sécurité économique. Sujet 4. Le Premier ministre de Grande-Bretagne, le président des États-Unis et le président des commissaires du peuple de l'URSS ont fait, à la suite de la conférence tenue en Guinée, la déclaration suivante. D'après les plans sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, il a été décidé que la France, si elle le désire, sera invitée par les trois puissances à occuper une des zones. Nous sommes décidés à désarmer et à dissoudre toutes les forces armées allemandes. Nous sommes résolus à établir, aussitôt que possible, avec nos alliés, une organisation générale internationale en vue de maintenir la paix et la sécurité. L'établissement de l'ordre en Europe et la reconstitution des économies nationales doivent être réalisés par des procédés qui permettent aux peuples libérés de détruire les derniers vestiges du nazisme et du fascisme et d'établir les institutions démocratiques de leur choix. La complète libération de la Pologne par l'armée rouge a créé dans ce pays une situation nouvelle. Extrait du communiqué final de la conférence de Yalta, sujet 5. Cette Europe divisée par la puissance soviétique, la mémoire collective des peuples occidentaux l'attribue tout uniment à la conférence de Yalta. Le mythe d'une Europe divisée à Staline par Churchill et Roosevelt, dans une station balnéaire de Grimmée, s'est imposé. Ce mythe sert d'explication à la domination soviétique sur une large part du continent. L'histoire réelle de la progression soviétique est pourtant bien plus complexe que cette mythologie du partage cynique ne le suggère. Yalta n'est qu'une péripétie. Avant de changer l'Europe et le monde, la guerre aura changé l'URSS, en la faisant passer du statut moyen qui était le sien au statut de grande puissance, décidant avec ses partenaires de l'ordre international futur. Le premier élément de ce changement, c'est la puissance militaire de l'URSS succédant à sa faiblesse des débuts du conflit. Staline avait voulu maintenir son pays hors de la guerre jusqu'en 1942, face à une Allemagne affaiblie par son effort sur le front occidental et au moment où les conséquences négatives des purges de l'armée soviétique de 1937-1938 auraient été réparées. La rapidité de l'affrontement français, la résistance anglaise, l'impatience d'Hitler avaient déjoué les intentions attentistes de Staline et entraînent en quelques jours un désastre militaire inattendu.